Yeah, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast avec Jerry Alain. J'espère que vous allez bien les mecs et les copines, oh ouais merde, hein? Yeah, hey, encore une fois, super content. Le podcast de cette semaine est une présentation du spectacle noir de Mike Ward en tournée partout présentement au Québec. Réservez vos billets au mikeward.ca. Yes sir, Miller. Un esti de bon show. Allez, checkez-moi ça. C'est vraiment malade. J'ai fait la première partie. C'était écœurant. Et j'ai vraiment trippé, man. J'ai trippé. C'était un esti de bon show. Pour vrai, tous ceux qui pensent, il y en a qui se demandent est-ce qu'il s'est assagi avec son procès? Je suis pas trop sûr. Oh que non, mesdames et messieurs! Et vous allez en avoir pour votre argent, les copains! Ouais! Honnêtement, vous allez vraiment triper. Allez checker ça. Super fier et honoré qu'il m'ait demandé de commanditer le podcast. Fait que gros merci à Mike Ward. Allez checker ça. MikeWard.ca. Là pour moi, mes plugs à moi, ok. Gros merci à tous les Patreons. Ben oui. Comment je peux vous oublier, hein, maudite merde. Gros merci à tous les membres Patreon. C'est grâce à vous autres. Si on réussit à faire ce projet-là, hein? Yes, sir! Hein, vous supportez ça financièrement et c'est super apprécié. Si vous voulez aider à faire en sorte que le podcast puisse continuer, vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, allez vous abonner au patreon.com/WhatsApp Podcast. Tout ça écrit ensemble, pas d'espace, pas d'apostrophe. C'est pas cher, c'est 2-3 piastres par mois. Et ben c'est ça. Fait que tout est là. Fait que gros merci à tous les membres. Sinon, qu'est-ce que donc j'avais à dire là-dessus? Ah oui, c'est ça. Si vous avez pas d'argent, c'est correct, je comprends ça. Ça arrive. Mais vous pouvez m'aider en allant mettre 5 étoiles sur iTunes, mettre des commentaires positifs. Dans le channel YouTube, vous abonnez au channel YouTube, ou sinon mettre des thumbs up, ça l'aide pour l'algorithme comme ça, ça m'aide à ce que je sois vu et whatever quoi là. Fait que bref, tout ça, gros merci tout le monde, je vous adore ben gros. Et ou sinon je suis en spectacle cette semaine, en spectacle cette semaine, tabarouette. J'étais en spectacle ce jeudi 28 novembre à Québec. J'ai crissement hâte de voir. Ça s'est vendu en maudit cette semaine. J'en avais quand même vendu une bonne trollée. Mais là, cette semaine, ça a parti de tout bord de côté. Fait que grouillez-vous, il est encore temps. Il en reste encore. Ça, on va jouer à la source de la Martinière à Québec. C'est une place que j'adore jouer. Fait que ça va être ça. Ou sinon, pour Montréal, j'ai décidé de refaire une supplémentaire au Club Soda pour ma fête. Encore une fois, ça va être avec des artistes invités en première partie. On va triper. La première, celle du 22 octobre, était écœurante. Hein? On a eu crissement du fun. Fait que là, celle pour ma fête, le 12 mars, on va triper en esti. Puis en plus, là, c'est un jeudi, là, cette fois-là. Là. Fait que là... Ben, ok. Vous pouvez quand même dire, ouais, le lendemain, je travaille, c'est vendredi. Ben, vendredi! On s'en sac, là, hein? Vendredi, tu peux être hangover un vendredi, là. Tout le monde comprend ça. Pas besoin d'être un alcoolique pour comprendre ça. Ben, vendredi, c'est pas grave. Un mercredi, je fais comme moi, je l'échappe un peu, là. Mais, vendredi, on s'en sac, là. Je reposerai en fin de semaine, esti. Fait que tous les billets sont au jerralin.com. Jerry R, Alain 2L. Et cette semaine, qui qu'on soit, on recevait Boucan Diouf. Super content d'avoir reçu Boucan, man. J'étais vraiment honoré de l'avoir. Hein, ce gars-là, il est vraiment écœurant. Il est vraiment. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé qu'on parle? C'était vraiment l'adaptation, ma tante qui nous a parlé. Ça représentait quoi pour lui de d'émigrer au Québec, hein? De partir d'un autre pays puis s'en venir au Québec puis de. Peu à peu, laisser sa place, laisser sa marque. Boucan Diouf, c'était vraiment très respecté. C'est un gars, un sage, c'est vrai. C'est un sage. Vous allez voir, un moment donné, je l'appelle Oncle Boucan. C'est Oncle Boucan tout le temps, tout le long. Là, j'ai vraiment eu du fun à le recevoir. Un super très gentil. Ça a été vraiment... il est inspirant à regarder, pour vrai. On a parlé vraiment de ses débuts, du début de quand il est immigré jusqu'à ses one-man shows qu'il fait, tu sais. J'ai beaucoup aimé parler de ça. J'ai beaucoup aimé... Oh, j'ai ramené aussi le sujet de la palourde royale. Hein? Je vous vendrai pas de punch, mais... En tout cas, c'était bien drôle. Là. J'aimais ça juste lui qui en parle. Tu vois qu'il est exaspéré encore par ça. Fait que bref, j'ai eu bien du fun à recevoir Boucard. Ou sinon, gars, ça va être ça pour cette semaine. Fait qu'encore une fois, gros merci au commanditaire MikeWard.ca. Allez checker son show, il est vraiment écœurant. Ça se peut que vous me voyez en train de faire sa première partie. Des fois, il me demande de venir la faire. Fait que il y a des chances qu'on se croise là. Ou sinon, il y a mon show ce jeudi 28 novembre à Québec. Mes billets au jerralin.com. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bonne écoute tout le monde. Et je vous aime beaucoup. Au revoir.
Moi, mon père, là, il est tout le temps en train de siffler de même.
Ah oui.
Ah.
C'est un déstressant.
Mon père, il est constamment en train de siffler de même. On marche dans le magasin. Là,
ouais.
Puis là, il part.
Il siffle. Mais je pense que c'est thérapeutique quelque part, Guy, je pense. Moi, en tout cas, c'est...
Ça montre qu'il est de bonne humeur.
T'sais. Ben, il y a ça. Moi, c'est une communication très naturelle chez l'humain.
Ouais.
J'ai l'impression que c'est le méchant moineau en nous qui s'exprime. Notre petit côté oiseau, là. Moi, ouais. J'ai grandi dans la nature, puis je me rends compte que le sifflement fait partie de ma vie. Même des fois, je suis à l'hôpital, puis je me surprends en train de siffler. Puis...
Mais en même temps, c'est ça, c'est signe que t'es de bonne humeur, parce que j'ai jamais vu quelqu'un en tabarnak en train de siffler.
Non, c'est très rare, ça. Il y a un sifflement de nervosité, ça existe. Mais d'être vraiment fâché, puis siffler, là, ça n'arrive pas. Mais j'ai l'impression que c'est... C'est quoi? Je pense que c'est un mode de communication très ancien chez l'humain. Siffler, parce que les oiseaux, on les entend. C'est l'oiseau qui chante. On dirait que peut-être que c'est les oiseaux qu'on imitait dans la nature qui font qu'on a gardé ça, le sifflement. Nous, on l'utilisait pour même des variantes pour appeler les animaux, quand on faisait ça. On faisait ça des fois pour appeler le chien, les chiens bergers.
Ouais, c'est vrai.
Les chiens bergers, on les appelait comme ça. Ils répondaient. Ou des fois, si c'est les vaches, on avait une variante. T'sais. Moi, quand je me souviens, vous voulez appeler les vaches, on faisait tout le temps. C'est une variante du soufflement. Des fois, je suis dans un parc, puis je le fais exprès comme ça. Et tu vois tout le monde regarder en haut en disant, c'est quoi cette espèce d'oiseau?
Ouais. Mais avant qu'on parle de sifflement, tu me disais que t'en connais pas beaucoup des humoristes qui est en arrière.
Non, moi, mon anglais étant assez limité. Mon anglais étant assez limité, la subtilité de l'humour fait en anglais est très difficile pour moi à comprendre.
Ah, ok.
J'arrive à saisir, mais je tire mon chapeau à des gens comme toi, comme Mike, comme plein d'autres jeunes qui sont capables de s'exprimer dans les deux langues.
Mais moi, je parle pas anglais, par exemple.
Mais tu comprends quand ils font l'humour. C'est déjà un début, quand même.
Ouais. Puis en plus, c'est juste eux autres. Parce que si quelqu'un d'autre... Tu sais, chaque nouvel humoriste, faut que je m'adapte à sa façon.
À son accent.
Ouais,
comme le black ici, c'est qui, là, lui?
C'est Dave Chappelle.
OK.
Ouais.
Lui, quel humour il fait comme humour, genre?
Lui, c'est de l'humour qui est politiquement incorrect, tu sais.
Ah, OK, fait d'accord. Je comprends pourquoi tu l'aimes, c'est ça? Ça fait partie des méchants moineaux. Ouais. Hein.
C'est ça, les moineaux polarisants.
C'est ça. C'est les gens qui disent, OK, ça a l'air que ça se fait pas, mais on va l'essayer pour voir pourquoi.
On va aller dans un sujet tabou, puis on va trouver un angle que,
ouais,
que vous allez être comme « Ah, je sais pas pourquoi que j'aime ça. »
Mais est-ce que c'est le malaise que, quand vous faites ça, là, excuse-moi ouais. de poser des questions, parce que
mais non, vas-y.
Moi, étant un vieux dans mm-hmm. le milieu de l'humour, parce ouais. que je pourrais être ton papa, là, tu sais.
OK.
Mais, non, mais c'est vrai, les gens qui nous écoutent ne peuvent pas se douter de ça. Des fois, moi, j'ai 54 ans, tu sais.
Ah, oh, ouais?
Mais oui, je pourrais être ton papa. Appelle-moi Oncle Boucard, tu sais.
Oncle Boucard.
Oui.
OK, Oncle Boucard. Ça va être ça, ouais.
Mais c'est, j'ai l'impression que quand la chose est taboue, là, c'est mm-hmm. interdit, parce que je me rends compte que toute cette gang de Mike Ward, puis toute cette gang, votre groupe, là, c'est, que tu sais que quand il dit c'est interdit, tu dis on va aller voir pourquoi c'est interdit. Là, mm-hmm. mais qu'est-ce qui vous attire là-dedans? C'est le fait de tester les limites de l'acceptable ou de dire jusqu'à ouais. quel point je peux aller, c'est ça?
Ben, peut-être tester les limites, c'est sûr que tant qu'à moi, oui, mais tu sais, c'est pas dur pour moi de pouvoir parler pour les autres, mais je sais que pour moi,
oui.
C'est que moi, il y a bien des. Moi, comment ça fonctionne, c'est moi, je, comment j'écris c'est, ou comment je vais choisir un sujet, c'est à force d'entendre du monde faire t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ben,
oui.
ben pourquoi j'aurais pas le droit, tu sais, ou sinon, on m'attend du monde qui se prenne pour la vertu et je suis la gentillesse.
Ouais, ouais,
moi, je suis du bon côté, puis tu sais, faut tout le temps prendre le bord de la victime, no matter what, qu'est-ce qui.
Les gardiens de la morale.
Ouais, c'est
qui,
ça.
Qui t'sais. Sont du haut de leur supériorité, qui c'est regardent ça. En disant.
Ah ouais. Puis ça, c'est interdit. Moi, je fais pas parce que tu te dis du bon côté que voilà. ça fait que t'as plus raison. Tu sais, va voir les deux côtés de la médaille avant de te prononcer sur quelque chose. T'sais.
Donc, comme quand les gens vont dire Boucard, c'est un sage parce qu'il dit mon grand-père disait, tu vas dire son grand-père disait qu'il mange la marde, c'est ça?
Mais allez voir, mon père. C'est qui son grand-père? Hein? Mais allez voir son grand-père.
Je suis sûr que c'est un institut hein? de cul, c'est ça?
Peut-être, on ne sait pas. Mais allez voir Oncle Boucard et je vais me renseigner, tu sais. Fait que.
Mais c'est la liberté d'expression dans
la
le
liberté
fond.
D'expression.
C'est vraiment, il n'y a pas. Faut pas.
Ouais, ouais.
Vous êtes un peu. En porte-à-faux avec le concept de délimiter par des barrières, des ouais. clôtures, la liberté d'expression.
Ouais.
Quand on dit il y a une clôture, il faut que tu sautes mm-hmm. de l'autre bord pour voir. Là.
Ouais, ouais, ouais. Fait que. Ben, tu sais, puis aussi, d'un fois, je me dis, c'est qu'il y a tout le temps. Tu sais, ma tante, même s'il y a de quoi qui est fondamentalement mal, mais il y a tout le temps. Il y a tout le temps un angle que tu peux aller chercher là-dedans, puis réussir à faire rire. Voilà. Tu sais, comme. Tu sais, moi, ma mère est décédée du cancer. Puis, à cause de ça, moi, j'ai utilisé beaucoup l'humour pour m'en sortir
voilà.
de ça, tu sais.
Mais tu es capable d'aborder ce sujet-là?
Ben ouais, je l'aborde au bout, là, tu sais. Puis, je m'en gêne vraiment pas.
Ouais.
Fait que, tu sais, ceux qui ont le même sens d'humour que moi vont aimer ces blagues-là.
Mais parce que tu l'as vécu, Yves. Parce ouais. que je pense qu'en humour, c'est plus facile d'aborder un sujet délicat quand tu l'as vécu.
Mm-hmm.
Tu sais, je veux dire, le seul que j'ai vu aborder le cancer, là,
ouais.
de façon sortie de nulle part, c'est Dieudonné, tu sais.
OK.
A fait un numéro sur ouais. le cancer, tu dis,
Mais Mike aussi en a fait
en
un.
En fait, oui.
Ouais.
Mais toi, tu l'as vécu, ça fait que c'est permis quand même de partir de ton expérience personnelle. Ouais. Et je pense pas que les gens vont venir te taper dessus en disant, tu es en train de rire d'une calamité qui touche tellement de familles. Mm-hmm. C'est, tu l'as vécu.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, exactement. Ouais. Mais, tu sais, puis en plus, tu sais, je trouve ça plate des fois aussi quand c'est le... Genre, mettons, tu sais, les homosexuels peuvent faire des blagues, c'est gay. Les
ouais.
gros peuvent faire des blagues, c'est gros. Les
ouais.
juifs, c'est juif.
Mais oui, mais parce que ça, si on fait ouais. ça, on le vivre ensemble, on fait quoi? Ouais.
Ben, je trouve que, tu sais, je pense qu'il faut tout le temps regarder l'intention derrière une blague,
oui.
tu sais.
Oui.
Puis de vraiment comprendre, OK, son oui. intention était-tu mal intentionnée ou...
Mais moi, sais-tu quoi? Moi, je pense que si on abordait l'humour comme ça, ça ne marcherait mmh. pas.
Mmh.
Parce que l'humour, c'est un outil de rassemblement, d'abord.
Ouais.
Et moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Mais si on dit chaque appartenance communautaire, ethnique, religieuse, orientation sexuelle, on ne peut pas rire de ça parce qu'on n'en fait pas partie, mais on n'est pas sorti du bois parce que mm-hmm. l'humour, justement, son rôle, c'est de faire tomber des barrières.
Ouais, puis d'être rassemblant.
Mais oui,
puis...
de faire tomber des barrières parce ouais. qu'on a tous des barrières mm-hmm. communautaires, même individuelles. Entre toi puis moi, il y a une barrière
mm-hmm.
parce qu'on ne se connaît pas tant que ça, je te connais un peu, mais il reste que ta bulle personnelle, si je la fais tomber avec une blague, on s'approche l'un de l'autre.
Ouais, c'est ça.
Puis pour la communauté, c'est pareil. Mm-hmm. Il faut... Puis je me dis, moi, il n'y a rien de plus dangereux que de dire « Tu n'es pas de tel, donc tu n'as pas le droit de faire l'humour sur tel. »
Ben, exactement.
Mais ça ne marche pas, là.
Ouais.
Ça marche pas. On ne peut pas dire, t'es pas africain, donc tu peux pas faire de l'humour sur les Africains. Ah ouais. T'es pas homosexuel, tu peux pas faire de l'humour sur les homosexuels. Par contre, il y a une différence entre rire avec et rire de.
Ouais, c'est ça.
T'sais. Et la limite est mince. Ouais. Mettons que quand tu détestes quelqu'un, tu peux pas rire de lui parce que ça va se sentir.
Ben ouais.
Et ça va
connaître la base de vérité.
Oui, mais quand c'est fait avec candeur et ouais. avec en disant, regarde là, voici un miroir là, mm-hmm. on se reconnaît là-dedans, puis après ça, on tripe ensemble, ben mm-hmm. là, les gens vont le sentir aussi, là, je pense.
Ouais, ben d'accord avec ça. Je vais te faire une vraie présentation.
Oui, hein, vas-y donc.
Tant qu'à être parti. Fait oui. que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Oncle Boucard, Boucard
oui.
Diouf.
Oui.
Ça va bien mon gars?
Salut Guy. Yeah. Appelle-moi Oncle Boucard jusqu'à la fin. Ben, c'est un défi.
Honnêtement, ça va m'avoir resté oui. dans la tête.
Comme ça, tu pourras dire mon arrière-grand-père disait.
Ouais, c'est ça. gros merci d'avoir accepté mon
plaisir.
Invitation.
Ça fait tellement plaisir.
Je suis super content. Ben, c'est ça, comme tu l'as dit, on se connaît pas tant que ça. On apprend à se connaître un peu aujourd'hui.
T'sais. Ben oui.
Puis, je fais tout le temps de la recherche sur mes invités avant de les recevoir.
Oui.
T'as commencé l'humour en faisant. C'est tes élèves qui t'ont inscrit. Aux auditions juste pour rire,
oui,
c'est ça?
Oui, effectivement. C'était, ouais. Je me souviens plus, peut-être dans les années 2000, ça fait longtemps,
okay.
là.
OK, ouais.
Je venais de finir mes études à l'université de Rimouski, puis moi, je travaillais là, à l'université, j'ai enseigné là longtemps, mm-hmm. puis je faisais rire beaucoup les étudiants, je faisais des capsules d'humour parce que mes cours étaient plates, en fait. C'est pas...
Ah, OK!
Non, mais c'est vrai, moi, j'ai enseigné ouais. la biochimie, donc c'est une discipline qui, pour beaucoup de jeunes, c'est endormant. C'est...
Ouais.
Alors, pour les réveiller, je faisais des capsules d'humour, puis ça les faisait rire. Puis un jour, ben, les auditions du festival Juste pour rire étaient de passage à Rimouski. À l'époque, ils faisaient okay. ça.
T'sais. Mais c'est des capsules, ça ressemblait à quoi?
Ah, ça
déguisais-tu?
Non, pas du tout, parce non. que sinon, ils m'auraient mis à la porte.
Hein. Ouais, c'est ça.
Ils m'auraient mis à la porte. Ouais. Non, c'était toujours... Moi, des fois, je faisais, mettons, un cours sur les sucres, tiens, les glucides.
Okay. Ouais.
Comme biochimie des glucides. Et ouais. donc, j'arrivais puis je disais, OK, aujourd'hui, je vais vous révéler le secret de la caramel.
Mm-hmm. Ah, alors okay, ça touchait les,
ouais, ouais. Des petites blagues et je leur expliquais comment est fabriquée, en fait, la caramel. C'est pas si sorcier que ça.
T'as mené, t'as le secret, t'es en train
non,
de me dire?
C'est pas compliqué. C'est pas, c'est pas sorcier. Il n'y a pas d'extraterrestre là-dedans. Il n'y a pas des visiteurs d'une autre galaxie qui ont rentré le caramel dans la caramel. Ah. Alors, donc, c'est des petits trucs comme ça. Des fois, je parlais des protéines, puis je leur disais, tu sais, cannibalisme, ça devrait être permis parce que une protéine de chèvre puis une protéine humaine, là, c'est la même affaire. Tu le fais cuire, puis tu ne leur dis pas. Hein? Ça pourrait marcher. Et donc, c'est des trucs comme ça que je faisais aux étudiants, puis ça les faisait rire beaucoup.
Ouais.
Puis c'est comme ça qu'ils m'ont inscrit.
D'un cours, là. Hein?
Ben parce que c'est un cours, c'est un spectacle.
Ouais.
T'sais?
Ben, t'as un public.
Ben, c'est un public. Puis quand t'es plate, tu vas t'en rendre compte assez vite.
Ouais.
Moi, une fois, je donnais un cours. Puis à un moment donné, il y a un garçon qui dormait, Claude, qui dormait dans la salle. Et là, je dis à son ami Emmanuel, un Gaspésien, j'ai dit, veux-tu réveiller Claude? Et Emmanuel me répond, non, Boucard, c'est de la responsabilité de celui qui l'a endormi de le réveiller. Mais c'est pour éviter ça, en fait.
Ouais, ouais.
Et ils m'ont inscrit aux auditions du festival, juste pour... À l'époque, ils faisaient le tour des régions. Hein.
OK.
Et donc, j'ai gagné les auditions. Mais moi, je suis allé là... C'était juste pour rigoler. J'ai dit, c'est un défi, je vais le faire. J'avais écrit un texte sur le... L'hiver du Québec, c'est, je faisais l'immigrant qui arrive au Québec qui capote sur l'hiver. C'est, on écrit tous là-dessus à un moment donné, hein,
ouais.
quand t'es immigrant.
Ouais.
Puis j'ai raconté à mes parents en disant, vous savez, la température au Québec descend à moins 140 en bas de zéro. Et à Rimouski, et à la veille d'une tempête, le jour de la tempête. Puis, tu sais, j'exagérais les choses, je disais, ouais. OK. La fameuse blague où je disais, au printemps, les Québécois sont tellement écœurés de l'hiver qu'ils essayent de bouffer les maudites derniers bancs de neige en les mélangeant du sirop d'érable. Tu sais. Avec ce texte-là, j'avais gagné les auditions.
Ouais. T'étais-tu bien stressé quand t'avais fait ce texte-là pour la première fois?
Pas vraiment. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai enseigné longtemps avant de faire ça. Puis l'enseignement, ouais. c'est du spectacle.
Ouais.
Toi, quand tu fais ton spectacle, là, tu t'en vas devant des gens qui ont acheté des billets pour aller te voir au Club Soda, tu sais. Ils ont acheté leur billet, donc la moitié du travail est faite. Ils veulent te voir.
Ouais, t'sais. C'est ça. Ouais.
Alors que quand t'enseignes, on t'impose 50 personnes qui veulent rien savoir de toi des fois. Il faut que tu les maintiennes en alerte pendant 3 heures. Donc, faire un 10 minutes dans un gala, là.
Ouais.
Moi, vraiment, c'est l'enseignement qui a été mon outil, tu sais. Quand tu commences l'humour, tu fais des rodages, puis tu fais des bars et tout. Moi, ça a été l'enseignement.
Ouais. C'est là que tu as fait tes...
Pour vrai, oui.
Ouais, ouais.
Pour vrai. Puis j'avais gagné les auditions. Puis je suis venu à Montréal représenter l'Est du Québec. T'sais. Ça, c'était très drôle.
Puis c'était où, ça, ce show-là?
C'est au Musée Juste pour rire.
OK. Puis c'est
chaque région représentée par un finaliste. Et donc, ils organisaient la grande finale à Montréal. Et puis, j'ai des souvenirs d'arriver de Rimouski avec un habit africain, c'est multicolore. Puis, quand ils ont dit « Représentant l'Est du Québec, Boucar Diouf ». Et je suis apparu au musée juste pour rire, puis je voyais les gens... Je voyais qu'ils ne comprenaient pas. C'est... Je suis sûr, il y en a qui disaient « Ah bon, le réchauffement climatique, c'est dans l'Est, ça a commencé, pour vrai. » Parce que... J'étais avec Rachid Badouri à l'époque.
Ah, oh, OK.
On a fait la finale ensemble. Puis moi, je n'avais pas gagné, mais ça m'avait permis quand même d'avoir un petit exposure à Montréal.
Ben ouais. C'est... Puis pourquoi t'as voulu continuer dans cette voie-là, l'humour? T'avais bien aimé ça au début ou...
Ben, ça a toujours été là, l'humour, dans mon cas. Moi, j'ai toujours communiqué par l'humour. Je sais pas, je dis, posez la question à tous les humoristes. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'humour? Je pense que ce serait intéressant de faire ça.
Ben, moi, c'était la dépression.
Bon, tu vois? Donc, tu te soignais avec ça.
Ouais, c'est ça.
Ben, parce que, tu sais, l'humour, c'est une récompense. Quand tu fais rire les gens, ton cerveau te récompense avant même que les gens te récompensent avec le rire. T'sais? Donc, ça t'a fait du bien, ça a été thérapeutique. Mais je pense que chaque humoriste, intérieurement, il ne le dira pas, mais a intérieurement, en lui, quelque chose qui l'a amené dans l'humour. C'est pour moi, l'humour, c'est pas... le mode d'expression des gens les plus vaillants. Hein. C'est pas vaillant dans le sens, mais les plus courageux et combatifs. Et, l'humour, c'est quelque chose qu'on développe pour se donner de l'altitude là où on sent un peu. Tu sais.
Ouais.
Et il y en a plein. Il y en a, ils vont là-dedans parce qu'ils ne pognaient pas avec les filles, parce qu'ils ont surpoids, parce qu'ils se sentent petits. Il y en a, c'est parce qu'ils sont gênés, qui font rire les gens pour dévier l'attention. Tu sais.
Ouais.
Il y en a comme Boucard parce qu'ils sont éclopés. Tu sais, et ils voulaient attirer l'attention ailleurs que sur leurs jambes. Et moi, je pense que si on veut savoir pourquoi les gens font l'humour, il faut aller dans les coulisses d'un gala d'humour.
Ouais.
Puis tu tends l'oreille et tu vas voir que... Je veux dire, tu sais, le chasseur le plus vaillant, là, ou le guerrier le plus courageux, là...
Ouais.
Dans l'Antiquité, il ne devenait pas le fou du roi, là. Mais c'est ça. Moi, ça a été ça. Ça a été parce que ça me faisait du bien pour toi, là.
Mais comment ça s'est passé, maintenant, jusqu'à... Tu sais, ça a été quoi ta prochaine gig pour entrer en humour? C'était quoi?
Ah, non, moi, c'est...
Après ça, comment ça s'est passé?
Ça a été... moi, ça a été tranquillement. J'ai commencé d'abord à l'université. Des fois, je faisais des spectacles improvisés pour les étudiants qui faisaient des parties de financement pour aller au Costa Rica.
Okay. OK, fait que genre après les auditions Juste pour rire, c'est là que tu as fait des petits spectacles.
Oui, juste des petits trucs. J'ai animé les Jeux du Québec qui ont été télévisés à Rimouski. Ensuite, j'ai commencé à faire des petits numéros dans les festivals de conte. Parce que moi, j'étais beaucoup dans le conte avant. Mais de toute façon, ceux qui savent ce que je fais, savent que je ne suis pas loin du conte. C'est entre le conte et l'humour, je fais rire. Et donc, les premiers numéros que j'ai fait vraiment de numéros de gala, ça a été au Grand Rire de Québec.
Ouais, c'est là que tout a pas mal commencé.
Ouais, j'ai fait la première partie de Stéphane Poirier.
OK.
Au Dagobert, une fois.
Ah ouais?
pour essayer de séduire la galerie avec Mario Grenier.
Ouais.
À l'époque, puis c'était... ils avaient aimé mon numéro, donc ils m'ont invité en gala avec François Léveillé. Puis j'ai fait un numéro le lendemain. L'année suivante, ils ont aimé mon numéro, ils m'ont invité. J'ai fait 4 numéros.
Puis t'avais-tu changé... Ben, c'est ça, c'était plus le numéro de
non, le numéro de l'hiver, je l'ai fait la première année. Puis après ça, je suis revenu, j'ai fait 4 numéros au gala qui allaient beaucoup dans des sujets différents, là, de toutes sortes d'affaires. Les tribulations d'un immigrant dans l'Est du Québec.
Ouais.
C'était beaucoup autour de ça. J'ai monté aussi des affaires énormes sur mon passé, sur ma culture d'origine, mon regard sur les Québécois, sur leur façon de parler. Ouais. Et donc, ça a été ça, moi. Ça a été ça, le début de mon aventure dans l'humour. Puis, il y a Guy Latraverse qui filmait ces gars-là, Guy, qui avait vu ce que je faisais, puis qui aimait bien ça, puis qui m'a dit, je vais t'amener à Montréal pour te produire au petit medley, pour te faire connaître là. Moi, c'est Guy Latraverse qui m'a produit mon spectacle où des journalistes ont participé, là, c'est vraiment ici, au petit medley.
Pour
moi,
des raisons X ou Y?
Non, même pas. Ça s'appelait Diversité.
Diversité, OK.
J'ai fait Diversité que pas grand monde n'a pas vu. J'ai fait l'Afrique assez que pas grand monde n'a pas vu.
OK.
Et pour une raison X ou Y, c'est mon troisième spectacle. C'est là vraiment que ces choses ont commencé à marcher.
OK. Ben, c'est ça, j'avais fait un peu de recherche.
Oui.
Puis j'étais comme, je sais même pas si c'est le combientième show, celle-là.
C'est le quatrième, mais il reste que les deux premiers. À pas grand monde. J'aurais pu les refaire maintenant, je pense.
Ouais.
J'aurais pu les sortir, là, les amener en salle. Puis je pense que 95% des gens qui vont venir ici.
Ils vont du nouveau matériel.
Oui, exactement. Puis à l'époque, c'est beaucoup des gens âgés qui venaient voir mon spectacle. Je faisais des kiwis, tu sais.
Mm-hmm.
Puis mon technicien m'a dit à un moment donné, tu devrais sortir ces blagues parce que moi, j'ai vu tes premières salles que tu as eues, là, il y a 15 ans, là. Tu peux être sûr d'une chose, là, les gens qui vont venir voir ton spectacle, la grande majorité ne peuvent plus se déplacer, là.
Non, ouais. Mais c'est-tu quoi que tu comptes faire un jour? Peut-être refaire ça?
Tout.
Ou faire un best-of de ces deux choses-là?
Ben, je sais pas, mais pas du tout. Sais-tu quoi? Moi, il y a une période où j'ai passé une période à parler d'immigration, de choc culturel dans l'Afrique, assez diversité. Puis maintenant, mes spectacles sont beaucoup orientés vers la science.
Okay.
Parce que c'est plus large comme sujet. Donc, pour une raison X ou Y, c'était un cours sur l'éducation à la sexualité, mais vu par un biologiste humoriste. Et là, le spectacle que j'ai fait, qui s'appelle Mactogoek, c'est le fleuve Saint-Laurent vu par un immigrant sénégalais qui l'a étudié pendant des années et qui a fait sa thèse de doctorat là-dessus. Donc, c'est beaucoup ça. Et moi, je retourne vraiment vers la science comme sujet d'humour. Donc, je pense pas que je vais revenir là.
OK.
Ça a été une étape.
Ouais. Puis comment t'as écrit ces spectacles-là? C'était-tu toute seule ou t'avais-tu un de l'aide?
En grande partie, c'est des essais et erreurs. J'avais un monsieur avec qui je travaillais à Rimouski. On allait voir un monsieur qui travaillait dans le théâtre, dans le coin de Matane. On a fait des mais la grande majorité là des textes a été des essais erreurs, des essais dans des trucs, mais j'écrivais des choses, j'essayais sur scène, ça marchait pas, j'ai recommencé. Mais c'est le reste du temps, c'est beaucoup la tradition orale africaine que j'utilisais aussi, donc il y avait beaucoup de contes là-dedans qui n'étaient pas assez, c'est des sagesses anciennes. J'utilisais le proverbe beaucoup, mais les proverbes, c'est pas Boukhar qui les a écrits, c'est des citations de gens à qui on doit un merci. Donc, ça a été beaucoup, ça.
Ouais.
Maintenant, quand je travaille, depuis l'Afrique, depuis, pour une raison X ou Y et Mactogoek, je travaille, il y a mon ami Louis-François Grenier qui travaille avec moi dans les deux spectacles.
Ouais. C'est donc, ton script éditeur?
Ouais, non, pas du tout.
Non?
Okay. Non, pas du tout. Moi, j'écris. Après ça, je envoie mes textes pour puncher dans certains endroits.
OK.
Et disons que C'est comme ça qu'on fonctionne, mais le strip éditeur, c'est vraiment moi là qui...
OK.
Il y a une époque, il y a ma blonde aussi
qui
écrit des blagues, qui écrit des blagues, qui me les laisse, puis qui met ça dans ma bouche. Ou des fois, j'écris une blague, je suis en panne.
C'est toute elle qui écrit tes blagues de mon grand-père, disait.
Même pas. A écrit les blagues en bas de la ceinture, surtout. Tu te trompes, mon gars. Non, pas mon grand-père disait. Alors, et donc, des fois, je demande son avis, puis Le wording de la blague, ça finit que c'est elle qui la trouve, mais je mets ça dans ma bouche. Donc, il y a ces gens-là, quelques-unes de mes blagues que j'ai fait, que je dois à mon ami Pat Tremblay, Patrick Tremblay, que tu dois connaître, qui est humoriste, Patrick.
Oui, ben c'est pas lui qui enseigne à l'école nationale.
Oui, à l'école nationale de l'humour. Donc, okay. C'est ça, là.
Ouais.
Donc, il y a tout ce monde-là à qui je dois un merci quand même. Dans l'orientation, mais moi, de ce que je fais comme spectacle, je ne peux pas le faire par quelqu'un d'autre.
Okay.
Ça tourne autour de la science, donc...
Ouais, c'est vraiment différent.
Il faut que je sois le maître d'œuvre. Il faut que j'avance, puis que les gens se greffent sur mon projet pour l'enrichir plus. Mais...
Ouais. Tu te vois-tu plus humoriste ou biologiste?
Un mélange des deux.
Ouais.
Oui. Un mélange des deux, mais je pense que je suis humoriste. Les gens qui voient mon spectacle savent que c'est drôle aussi. Mais
c'est pas une conférence.
Oui, non, c'est pas des conférences, mais de plus en plus, je pense que c'est une très bonne question. Je suis entre les deux. J'essaie de mélanger l'humoriste, de catalyser une relation d'amour entre l'humour et la biologie. C'est ça que j'essaie de faire. T'sais. Ça marche pas toujours, mais je pense que le potentiel est là. Parce que...
Ben, je sais que ça te fait sortir du lot, en tout cas.
On peut pas. On crée à partir de ce qu'on est.
Ouais.
Et moi, je dis aux gens, colle-toi sur ce que t'es. Et tu vas être convaincant après en humour. Ce qui était, ce qui t'anime, ce qui te fait triper, là, même si c'est toi, là, dans ta jeunesse, que tu aurais aimé faire, c'est animer animateur de pastoral, mais fais-moi des numéros sur l'animation de pastoral. Non, mais c'est vrai, il y a de quoi rire de ça, tu sais.
Ouais, c'est vrai.
Je me souviens avoir dit ça au jeune, comment il s'appelle, Guillaume Pinault.
Guillaume.
J'ai dit, Guillaume, mais toi, là, tu fais de... Comment il s'appelle il faisait de...
Lui, il fait plus de l'anecdote.
La kinésio...
Ah, oh, oui. Ouais, ça, lui, il...
Oui, physio, quelque chose. Physio, oui.
Ouais.
La physiothérapie.
Ouais, sûrement.
J'ai dit, mais Guillaume, écris sur la physiothérapie. Ça existe, ça?
Ouais.
Mais c'est ça que tu dois faire, parce que c'est toi, ça.
Ouais. Il y a d'un qui
personne d'autre ne peut l'écrire.
T'sais. Ouais.
T'sais, toi, c'est ta passion première dans la vie avant l'humour, c'est quoi?
Je pense...
Mais ou après l'humour, mettons.
Moi, j'aime bien la mécanique. Là. J'aime la mécanique, tout ce qui travaillait de ses mains. Là.
Mais voilà.
Ouais.
Ben oui, pour moi, c'est ça, le... Pour moi, c'est ça, parce que quand tu vas faire de la recherche autour de ces sujets, tu ne te fatigueras pas à faire ça.
Ouais.
Et par conséquent, tu vas emprunter des chemins de contournement. Moi, je dis aujourd'hui, là, l'humour, il y a des autoroutes qui ont été tracées. Beaucoup de gens sont passés par là. Et c'est plus difficile de surprendre le public en suivant ces autoroutes-là. Parce que, c'est quand tu dis, quand j'étais jeune, la publicité, puis les pubs, ça, les gens, ils l'ont déjà fait.
Ouais.
Si ma blonde a fait ça, mais je veux dire, aujourd'hui, là, Dieu, pour moi, je suis sage parce que je suis ton oncle.
Ouais.
Donc, je peux te dire des choses
ben oui.
que tu vas dire. Peut-être que Boukar a raison. Ouais. Mais moi, je pense que c'est les chemins de Garnotte qui restent. Puis je sais que tu en fais partie des gens qui empruntent ça.
Ouais.
Pour surprendre les gens en humour aujourd'hui, il faut prendre les chemins de Garnotte. Il ne faut pas prendre les autoroutes. Les autoroutes, tout le monde a été là-dessus pendant tellement longtemps et sont encore là-dessus. Mais si tu prends le chemin de Garnotte, tu vas faire découvrir aux gens des choses qui vont faire « Ah, je n'avais jamais pensé ça ». C'est comme celui qui va à Québec en prenant la 20 et quelqu'un qui prend la 132. On finit par oublier avec le temps que entre Québec et Montréal, il y a des merveilleux villages à cause de la 40, de l'autoroute 20 et de la 40 aussi. Mais si tu prends la 132, c'est plus lent un peu. Mais tu vas découvrir plein de beaux villages et ta vision va changer. Puis je pense qu'on est rendu là dans l'humour. Il faut prendre les chemins de Garnotte, éviter les autoroutes.
Ouais.
Oui, mais pour moi, tu sais, la mécanique, je ne connais rien là-dedans. Si je t'entends faire un texte sur la mécanique, je vais arrêter pour écouter ça. Être habile de ses mains. Ouais. Parce que ça, c'est l'intelligence des Québécois. Moi, je considère que la force des Québécois, comparée au reste de la francophonie, c'est d'avoir été des gens habiles de leurs mains. parce qu'ils ont failli péter aux frettes. Si. Non, j'aime beaucoup cette expression-là.
Ben, c'est ça, je t'écoute parler. Puis, oui. Ben, même dans tous tes numéros, tu utilises beaucoup de... Tu as vraiment adopté le parler québécois.
Oui, parce que c'est
unique. La garnotte, puis...
Oui, les chemins de garnotte.
Hey, ils se font péter aux frettes.
Mais oui! Moi, j'ai dit aux gens, écoute, parce que quand tu entends les Français dire « tu vas mourir, tu vas trépasser », c'est pas clair.
Ouais.
L'Africain dit tu vas cadavrer, il y a du rythme là-dedans, mais c'est pas encore clair. Mmh. Mais le Québécois, il dit tu vas péter aux frettes, et tu le vois, la mort. Non, mais pour de vrai, quand t'as vu moins 40, quand on dit tu vas péter aux frettes, tu vois le tomber raide mort, sec comme ça. Et pour moi, c'est ça la force de la langue ici.
Ouais.
C'est tomber raide mort. Et je dis souvent aux jeunes, faut pas confondre ça avec tomber mort raide.
Mmh.
Parce que tomber raide mort, c'est le trépas.
Ouais.
Tomber mort raide, ça, c'est le Viagra, c'est une autre histoire. Hein? Mais pour moi, c'est je reviens à ton à l'aptitude, le travail manuel.
Ouais.
Quand tu vas ailleurs, là, quand tu as un problème avec la toiture ou les gyprox, tu appelles le spécialiste et il vient, ouais, en France, en Afrique.
Mm-hmm.
Le Québécois, ils sont équipés pour réparer tout. Puis ça, je pense que c'est l'hiver qu'il l'a fait. Les gens, ils ont dit, si tu sais pas réparer ça, puis il y a un trou dans ton mur, tu es au troisième rang de Saint-Machin. Asti, tu vas crever pendant l'hiver. T'as intérêt à travailler, Asti. Et les gens sont devenus très hot.
Ouais.
Pour vrai, là, c'est, ils sont très, très débrouillards. Quand j'ai acheté ma maison à Longueuil, tu sais, à côté de chez Mike, tu sais, puis moi, c'était la première maison que j'ai achetée de ma vie, comme Africain a grandi dans la savane. Tu sais.
Mm-hmm.
Puis le propriétaire, il me dit avec un accent typique de Longueuil, là, « Mais là, mon homme... va falloir que tu vides tes gouttières, là, parce qu'il y a beaucoup de feuilles sèches, ça remplit bien vite, tu vas voir. » J'ai dit, pardon? « Va falloir que tu goûtes tes gouttières souvent, parce que ça, il y a beaucoup de feuilles, puis ça remplit vite. » Puis là, je dis au monsieur, c'est quoi des gouttières? Et là, il me regarde en disant, voyons, tu sais pas c'est quoi des gouttières? J'ai dit, ben non, je sais pas c'est quoi des gouttières, si.
Toi, t'as jamais acheté de maison?
J'ai jamais acheté de maison. Et penses-tu, il y a des gouttières dans mon village en Afrique? Il y en a pas de gouttières, si. Hein? Et là, je te jure, il pensait que j'ai blagué. J'ai dit, non, mais je blague pas, je sais pas c'est quoi des gouttières. Et là, il m'a expliqué ça, parce qu'à l'époque, il me voyait à la télé, le monsieur, hein, donc il s'est dit, je suis sûr qu'il rentrait en disant, c'est qu'ils engagent n'importe qui à TV ici.
Ouais.
Écoute, le gars, il anime une émission de télé.
Il sait pas c'est quoi des gouttières.
Il doit aller... Radio-Canada, faut qu'il arrête de faire de la discrimination positive.
Ouais.
Il y a des limites à engager des incompétents. Moi, je suis sûr qu'il devait dire ça. Écoute, mais c'est fascinant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et je te dis là, en tout cas, pour le public de la francophonie, c'est quelque chose à dire. On est supérieur, les Québécois, dans les travaux multifonctionnels.
Okay.
Ça coule dans le robinet, le gars, il arrive, il éterre ça, il regarde le drain français, il dit, garde, m'en débrouiller tout seul. En haut, il dit, mal patché, de réparer ça, puis il répare, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'était l'hiver ici.
Ouais.
Si, l'hiver, le plus longtemps possible. Si t'es pas débrouillard, tu crèves ici.
Mm-hmm.
Je suis sûr.
Le Boucas, oncle Boucas, excuse-moi. Oui, ça, t'as dit, tu viens de mentionner que ça, tu viens du Sénégal.
Oui.
Tu as grandi dans un village.
Oui, du Sénégal.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir, parce que t'es allé à l'université aussi, avant de t'en venir à l'université du Québec à Rimouski. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Rimouski de partir pour t'en venir au Québec?
Ah non, c'est moi, je choisis Rimouski parce que c'était... en fait, c'est mon frère qui m'a eu. C'est mon frère, c'est un climato-sceptique, tu sais.
Okay.
Mon frère était un géologue, il étudiait en Belgique, tu sais. Puis c'est lui qui m'a dit... Non, il m'a pas eu, en fait, parce que mon frère il étudiait en Belgique. Puis moi, quand j'ai fini mes études, j'avais deux bourses. Je pouvais aller en Belgique ou venir ici. Puis mon frère qui était en Belgique, qui m'a dit, ah, j'ai rencontré des Québécois, j'ai trouvé vraiment smart, tu sais.
Ouais.
Puis je pense qu'il tripait pas là. Puis il m'a dit, tu devrais essayer là-bas. Je pense qu'il voulait pas m'avoir dans les jambes, en fait.
Là.
Puis je suis venu ici. Puis quand j'ai vécu mon premier hiver, là, j'ai fait une poupée à son effigie. Je le piquais avec un couteau. Mais c'est un peu ça, parce que Mais Rimouski, c'était parce que je voulais faire des études en océanographie, les sciences de la mer, puis c'est là que ça se donnait. Ça.
OK, c'était le seul, la seule université qui donnait ce cours-là.
Je pensais que c'est une grande ville aussi. Moi, j'imaginais les guerres de motards, les prostituées qui tapinent dans les rues le soir. Tout.
Pas vraiment. Hein?
J'y arrivais le premier jour, j'ai vu un Orient.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est...
Ou des
c'est...
alcooliques qui se battent dans une ruelle.
Mais non, mais j'ai adoré ça, moi, être à Rimouski. Ouais. Parce que c'est fantastique, arriver en région. Pour un immigrant qui veut découvrir.
Ouais.
Moi, je suis arrivé là, je ne comprenais rien. Là. C'était, tout est nouveau pour moi.
Tu retournes souvent au Sénégal?
Oui, je retourne deux fois par année voir mes parents. C'est... Mm-hmm. Mais moi, je me souviens, je suis arrivé là, juste l'épicerie. Là. Ça avait été, tu sais, l'épicerie, tu pousses ton panier. Mais ça a pris des gens pour me dire, bon, on va te donner les codes. Tu sais.
Ouais.
Le premier jour, je suis allé, j'ai essayé de négocier le poulet à l'épicerie. Ils m'ont dit non. Ça n'a pas de négociation de poulet ici. Là. De passer là, ça vaut 5$, je t'en donne 3. Là. Non, ça ne passe pas. Donc, ça a été tout un apprentissage. Hein.
Ouais, ça, y a-tu un
choc? Être une minorité visible, mais dans l'Est du Québec en 1991.
Ouais, c'est ça.
C'est quelque chose, là.
T'as-tu été bien accueilli?
Hein?
T'as-tu été bien accueilli?
Oui, mais c'est sûr que ça fait...
Ouais.
Ça génère des situations des fois que tu dis hey,
ouais.
Tu sais, comme maintenant t'es assis dans un café à côté d'une dame. J'ai raconté cette anecdote dans mon premier spectacle, puis il y avait sa petite fille qui devait avoir 4 ans puis qui voulait entrer en communication avec moi parce que tu sais, les enfants, il y a pas de barrière, tu sais.
Mm-hmm.
Et puis avançait sa main vers moi, je faisais un petit sourire, je cherchais des amis, puis la maman disait Virginie, mais je le voyais qui était nerveuse, tu sais.
Ouais.
Puis c'est comme pour dire, fais attention, il pourrait te mordre le doigt. Aussi. Mm-hmm. Puis à un moment donné, j'ai dit à la dame, et c'est une histoire vraie, j'ai dit à la dame, j'ai serré la main, j'ai envoyé la main, puis j'ai dit, bonjour madame, je m'appelle Boukar Diouf, et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour votre fille, je suis végétarien.
Non, ouais. Je suis vacciné.
Ouais.
Il n'y a pas de problème.
Je suis végétarien, je ne te boufferai pas.
Ouais.
Mais c'est à part des anecdotes comme ça, mm-hmm. c'était pas... Ça n'a pas toujours été facile, hein. C'est, moi, je. Ça n'a pas toujours été facile, mais dans 90% du temps, c'était fantastique.
Ouais.
Le reste du temps, c'est t'arrives, t'appelles pour un appartement, le gars te dit, j'ai pas d'appartement à louer, ici.
Ouais.
Puis là, tu donnes le téléphone à ton ami qui est québécoise, l'autre appelle, puis il dit, oui, j'ai un appartement, puis ça m'est arrivé, ici.
Ouais.
J'ai allé voir, le gars, il était en train de peinturer son appart, son. Puis on arrive, puis on est venu pour l'appartement, puis il descend de l'escalier, puis il dit, c'est pour qui l'appartement? Puis mon ami, la Québécoise, dit, c'est pour lui. Puis il dit, non, moi, je ne loue pas d'appartement à des Noirs. C'est...
Non, ouais.
Directement, bang! Puis j'ai dit, ben non, tu vas me le louer, parce que là, j'ai un témoin, comprends-tu?
Mm-hmm.
J'ai un témoin, et ce que tu viens de faire, ça ne se fait pas. Et je connais mes droits, tu vas me le louer. Puis j'ai dit, à l'époque, j'avais appris, mange la marde, tu sais.
Non.
J'ai dit, tu vas me le louer ou sinon je vais te faire manger de la marde, tu vas voir. Je vais t'amener en cours, puis je vais te traîner dans la boue, si tu vas voir que je connais mes droits. Il n'y avait pas le choix.
Ouais.
Il me l'a loué, mais il m'a pété une coche pendant le bail. Là. C'était clair, j'avais reçu des amis. Là. Des amis africains sont venus chez moi, là. Le propriétaire m'a pété une coche. Là. C'était clair. Hein. Un de mes amis s'est levé, il dit, je vais aller le frapper. J'ai dit, non, on ne touche pas ici, mon gars.
Ouais.
Touche pas, puis j'ai dit, j'ai une meilleure solution, je suis allé le voir, puis j'ai dit, je vais négocier, si vous voulez, je quitte ta maison,
ouais.
Je te laisse le bail, puis je m'en vais, puis il a accepté,
ouais.
Mais comme le temps, les choses, à un moment donné, j'ouvre le journal, puis je vois le même propriétaire, il était allé cueillir des blés, s'est fait attaquer par un ours. ça m'a fait du bien. Ça, c'est la solidarité entre blacks. L'ours noir s'est vengé à ma place.
Solidarité.
Il s'est fait attaquer, puis les gens l'avaient filmé, il y avait tout le village, tout magané. Tu sais. J'ai dit ça, voilà, c'est mes voeux qui sont exaucés un peu, là.
Même les ours n'aiment pas le racisme.
Ouais, non, mais c'était. Mais le reste du temps, c'était fantastique. Moi, j'ai aimé vivre en région. C'est quand tu es à Montréal, comme ici, les gens, la question qu'on te pose souvent, c'est hey, Rimouski, passé là un an. Moi, j'ai habité à Rimouski, à Gaspé. J'ai travaillé à Baie-Comeau, j'ai travaillé à Grande-Bergeronne, mm-hmm. sur la Côte-Nord, à Matane, tu sais. Puis...
Ouais, t'as adopté tout le bas du fleuve.
Partout, j'ai été heureux. Mm-hmm. Dans, à 90%, là. Puis moi, ouais, aujourd'hui, quand je parle de l'Est du Québec, c'est chez moi, là. C'est, j'ai passé plus de temps ici qu'au Sénégal.
Ouais.
Donc, c'est chez moi. Puis ça n'a pas toujours été facile, mais...
Quand tu reviens du Sénégal, as-tu un genre de mal de vivre qui te fait que...
Mais c'est, bon, c'est une bonne question, ça.
Ouais.
C'est une... Parce que c'est très dur, immigrer. C'est très dur parce que quand tu as passé tout... Moi, si je suis arrivé ici, j'avais 24 ans. C'est...
Ouais.
Si je suis arrivé ici, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. C'est... Donc, ouais, imagine.
Ça fait 30 ans de ça.
Bon, alors, mais il reste que moi, toute ma personne, ce que je suis, jusqu'à 24 ans, ça a été façonné au Sénégal. Ouais. Donc, le Sénégal est en moi très profondément. Mes souvenirs d'enfance, la famille, les l'environnement de jeunesse, les escapades dans la nature avec les gens de mon âge, tout ça est en moi.
Pas lavé de gouttières.
Hein?
Pas nettoyé de gouttières.
Non, pas nettoyé de gouttières, mais je cultivais des arachides. Ça. J'aurais bien... Je travaillais pour des pinottes pendant longtemps. Et donc, quand tu arrives ici, puis tu as passé 30 ans à peu près ici, là, ça s'en vient, là, je m'en vais vers mes 30 ans ici. Et donc, ici fait partie de toi, mais là-bas aussi fait partie de toi beaucoup. Mm-hmm. Donc, quand tu es ici... Tu t'ennuies de là-bas. Et quand tu arrives là-bas, tu t'ennuies de ici. Comprends-tu?
Ouais.
Et donc, tu deviens à un moment donné la tiraillée entre deux cultures. C'est comme si tu écris afro-québécois avec un trait d'union entre les deux. Là.
Ouais.
Tu es comme le trait d'union, puis tu es tiraillé. Plus tu vieillis, plus c'est tough. C'est vraiment tough. Je te dis, là, l'immigration, c'est... tu sais, des fois, quand on reçoit les immigrants, on ne se pose pas cette question-là, mais... C'est très dur, immigrer. C'est une... Quitter ta terre, ta famille, tes amis, quitter tout ce que t'as, aller refaire une vie ailleurs, c'est...
Ouais.
Puis c'est vraiment quelque chose de dur.
Tu pensais-tu rester longtemps au Québec quand t'es parti?
Moi, en venant ici, non, mais le temps et les rencontres ont fait que je me suis enraciné ici. Puis moi, j'ai aimé le Québec en arrivant ici. Je l'ai adoré tout de suite.
Ouais.
C'est une terre de liberté, une terre de fraternité. Mm-hmm. Et c'est pas parfait, mais c'est une terre d'ouverture, le Québec. Les gens sont ouverts. À partir du moment où tu ris avec eux, là, c'est fini. T'sais. Le Québécois, il se passe pas un individu très compliqué. Pour vrai, si tu acceptes de rire, et si tu acceptes de rire de toi, en plus... Ouais. Ils vont dire, tu sais, il se prend pas pour de la marde. Si c'est pas, c'est quoi vos rapports avec la marde? Va falloir que tu m'expliques ça un jour. Hein? Parce que tantôt la marde est bonne, tantôt elle n'est pas bonne.
Ah ouais.
Quand t'es chanceux, il dit t'es mardeux, tu dis OK. Puis quand tu fais ton smart, il dit il se prend pas pour de la marde. Comme si de la marde avait une valeur ajoutée. Mais quand tu te prends pas pour de la marde, pour de vrai, là, les barrières tombent tout de suite.
Mm-hmm.
Avec l'autre, et puis ça s'est fait, mais en vieillissant, c'est dur. Moi, j'ai demandé un jour à des immigrants où ils voudraient être enterrés. C'est. J'ai fait le vox pop parce que je sentais ça en moi très profondément. C'est. Puis je me suis dit, quel que soit le niveau de confort, d'acceptation, de succès social, moi, je me plains pas, c'est pour vrai. Là. J'ai vécu un rêve extraordinaire dans ma vie, j'ai grandi dans une famille totalement démunie, avec deux parents analphabètes qui nous ont inscrits à l'école. On était débrouillards et travailleurs. On a mangé bien de la marde dans la vie, c'est pour vrai. C'est pas des chars de marde, ça c'est un peu trop. Là. Parce que la générosité québécoise, ils te donnent de la marde, mais si tu n'écoutes pas, ils t'en donnent un char. C'est un tracteur au complet. Mais j'ai mangé tout ça, ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, c'est ma vie pour moi. C'est un... Mon histoire, c'est un rêve. C'est... Mmh. Même si je me lève des fois, moi, puis j'y crois pas. Mais il reste qu'en vieillissant, tout ton corps te mobilise pour te dire « Ah, ta terre, la terre qui t'a vu naître. »
Ben, c'est ça, t'avais une histoire avec l'affaire de... Quand ta mère est à ta couche, il enterre le placenta.
Oui, effectivement. Ouais. Ça, c'est traditionnellement chez nous, c'était ça. On enterrait le placenta sous le lit de la mère, on creusait dans la terre.
Okay.
Puis c'était pour te dire, en fait, la symbolique était double, c'est que ta mère, même à l'horizontale, on considère qu'elle est au-dessus de toi.
Okay.
Tu vois?
Ouais.
Donc, il y a ce rapport à la maman dans une société un peu matriarcale comme la mienne.
Okay.
Puis l'autre lien, c'est cette espèce de connexion que tu entretiens avec le placenta. C'est comme un Wi-Fi, c'est... Peut-être que c'est nous qui avons inventé le Wi-Fi. Ah,
ouais. Ouais, ça, le placenta, c'est ton routeur.
Ouais, le routeur, ouais. Qui permet de connecter avec ton village.
Ouais, c'est ça.
Oui. Mais en même temps, quand tu le regardes, c'est un lien à fil que c'était le placenta, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Quand tu es dans le ventre du bébé, de la maman, là, le placenta, c'est ce qui te lie à la maman, n'est-ce pas? C'est un téléphone sans fil, avec fil.
Ouais. T'sais.
Les informations passent par là dans la nourriture et tout, mais quand tu nais, tu viens au monde, ben, nous, biologistes, nous savons que le Wi-Fi le plus puissant, c'est la nature qui l'a inventé. C'est.
Mm-hmm.
Il y a une molécule qui s'appelle l'ocytocine. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais l'ocytocine, l'ocytocine, c'est une molécule, c'est celle qui fait contracter l'utérus de la maman pour que le bébé vienne au monde.
Ah, OK, qui fait les contractions.
Oui, le pitocin qu'on donne aux femmes, c'est dérive de l'ocytocine pour provoquer un accouchement.
Ouais.
Mais il reste qu'après la naissance d'un bébé, c'est la molécule qui fait aussi que juste le fait que la maman pense à son bébé, puis le lait commence à sortir de son sein. Mais ça, c'est Wi-Fi, pas mal.
Ouais. Hein?
Juste le fait d'entendre le bébé pleurer, là,
ouais,
fait sortir le sein de la maman. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien,
non,
là.
C'est ça.
Et donc, pour
c'est
moi,
Wi-Fi.
C'est vrai que c'est Wi-Fi.
Ouais.
Et pour moi, c'est ça, là. C'est la théorie du placenta, c'est surtout ça. Ils disent, quand tu vieillis dans une terre étrangère, le placenta t'appelle. C'est.
Mm-hmm.
Et moi, c'est tough pour moi, là, si ça arrive. Ouais. J'essaie de l'ignorer parce que j'ai fait ma vie ici.
Ouais. Puis là, vu que tu es rendu avec des enfants...
Des enfants. Puis ma femme, elle vient de la Gaspésie.
Ouais.
Les enfants, ils grandissent ici.
Ouais.
Tu peux pas dire, écoute, je vous sacre là parce que j'ai un appel du placenta. Hein. Ils comprendront même pas.
Enfin, quoi?
Ils m'ont dit, c'est quoi le placenta? C'est-tu, hein, non? C'est-tu une succursale des impôts au Canada?
Ouais,
alors, c'est ça, là. C'est dur. Alors, on va et on revient. Ouais.
Mais Edouard, aussi l'appel parents de toi qui veut leur montrer tes racines puis ta
amène
culture, ouais.
Ouais, je les amène, ouais. Puis, parce que quand ils sont là, ils disent, ah, nous, on est des Sénégalais. J'ai dit, attends, là, vous pouvez le devenir, mais vous ne l'êtes pas encore. Parce que, puis mon fils, la première fois, je l'ai amené, là, c'est... Puis il était comme tout excité, puis il arrive là, puis Sénégalais, moi. Mais j'ai dit, non, attends, là, on le devient, là. Sénégalais, tu vas le devenir, tu ne l'es pas encore. Puis on arrive chez ma mère, puis ma mère avait une poule, c'est, avec des poussins. Puis il arrive là, puis il voit le poussin, il pense que c'est un poussin de Pâques, là, c'est. Mais ces poules, la poule qui traîne ses poussins, puis arrive, oh, un poussin! Et il attrape le poussin, c'est. Puis j'ai dit, Anthony, tu fais une erreur, mon gars. Et dès qu'il a attrapé la maman a sauté sur lui.
Hop, elle l'a attaqué.
L'a attaqué, il est couru, il hurlait partout. Puis j'ai dit, ah, tu vois, je t'avais dit que t'es pas sénégalais encore. J'ai jamais vu un jeune Sénégalais hurler à cause d'une poule. Tu t'es fait massacrer par une poule. Quand tu sauras que tu tiens, t'attrapes pas le poussin, tu sauras comment te défendre contre une poule. Tu pourras avoir la nationalité du Sénégal.
Ah ouais. C'est comme Rocky, si elle m'a amené son entraînement, il faut qu'il essaye d'attraper une poule. C'est un peu.
Mais c'est ça, parce qu'il y a des poules qui sont très, très agressives quand tu touches au poussin. Là.
Ouais.
Mais puis, ça court. Alors, oui, je les amène quand même parce que ça fait partie de leur histoire. Et je leur dis, ben. Vous pouvez vous l'approprier ça aussi parce que c'est bien d'avoir plusieurs cultures. C'est,
mm-hmm,
c'est comme l'amour, tu peux les multiplier sans diminuer rien là-dedans. C'est, quand tu as trois enfants, tu peux les aimer à 100% sans que ça enlève rien à personne.
Mm-hmm.
Ben, c'est ça. Puis, mais je pense que pour toutes les personnes, ils gagneraient à savoir que s'immigrer, c'est pas facile.
Mm-hmm.
C'est pas facile. Puis quand t'entends les gens harceler les immigrants comme ça, en disant « Ah, il faut qu'ils s'intègrent, il faut que tu dis... » Le temps.
Ouais.
Faut donner-leur du temps un peu.
Mm-hmm.
On ne peut pas forcer ça. Puis des fois, tu montres aux Québécois l'image de ce qu'ils font pour leur dire. C'est pas toujours aussi facile.
Ouais.
Tu sais, la preuve, nous, on va en Floride puis on fait du spectacle là-bas au Club Tropical. Pourquoi? Parce que les Québécois, quand ils vont là, ils tiennent entre eux autres aussi.
Mm-hmm.
Tu sais?
Ouais.
Et tu leur dis, ben regardez là. Parce que ce que vous dites à l'autre en disant « Ben non, faut pas vous tenir entre vous, là, intégrez-vous. » Ça va se faire tranquillement, mais vous faites la même chose. Mais c'est important que quelqu'un vous tende un miroir aussi pour dire « Regarde,
ouais,
c'est pas facile, là. Si quelqu'un te prenait, toi, là, puis te dépose dans une tribu de pygmées au Cameroun, là.
Ouais.
Hein?
D'un, j'irai jamais.
Dit, écoute, mon Guy.
j'ai peur de l'avion, j'irai jamais là-bas.
Écoute, mon Guy, bonne chance.
Va me faire attaquer par des poules, moi.
Ouais, voilà, c'est une poule où tu vas trouver ta nourriture. Bonne chance.
Tiens, non, ça. Sûr, je suis très prêt au bout de
parler. Ouais. Ah, ouais. Tiens, Guy, tu dois manger ça. Ça s'appelle du bougoulouba.
Du bougoulouba.
Si tu ne manges pas le bougoulouba, le bougoulouba va te manger. Bonne chance.
Moi, je voudrais aller voir. Le chaman pour qu'il me fasse faire ses drogues et ses affaires. C'est ça que je voudrais faire.
Bah ouais, ouais, ça c'est possible. C'est possible, mais il reste que c'est beaucoup de travail, là. C'est s'approprier une nouvelle identité, une nouvelle culture, c'est pas facile.
Ouais, hein, c'est ça.
C'est pas facile, puis c'est dans l'amour que ça se fait.
Mm-hmm.
Si tu veux que l'autre devienne toi, là, et qu'il s'intéresse à toi, c'est pas la coercition forcée. Ouais. Il faut juste que tu crées chez lui une relation d'amitié et d'amour, en étincelle. Moi, si j'ai embrassé le Québec, c'est parce que je l'ai senti dans le regard des gens. C'est, j'ai senti l'ouverture dans le regard des gens. J'ai chanté, ils m'ont donné une grosse bière, j'ai fait igloui, igloui. Ils m'ont dit, il est des nôtres. Ah bon? C'est aussi rapide que ça, avoir la nationalité, là. Ben, je vais la prendre. Ah ouais, amener une caisse de 24, je vais devenir le maire de Rimouski dans pas longtemps. Et donc, c'est ça, là.
Quand tu as lancé, ma tante, ton troisième spectacle là, pour une raison
X ou Y,
t'as-tu eu peur un petit peu de savoir est-ce qu'il y a du monde qui vont se déplacer, venir me voir en spectacle ou...
Moi, j'ai jamais vraiment. J'ai toujours fait ça en me disant si je réussis à faire 50, 60 dates, je suis correct. C'est...
Mm-hmm.
J'ai jamais eu vraiment une ambition quelconque dans l'humour.
OK.
Non, pas d'ambition pour ce qui est du nombre de dates, pas d'ambition pour ce qui est du nombre de spectateurs. Je me suis dit, si les gens se déplacent pour voir mon spectacle et qu'ils vivent pendant 50, 60, 70 dates, je vais être content.
Ouais.
C'est tout, là. C'est, je veux dire, rentrer 500 personnes au Club Soda comme tu l'as fait, là, c'est pas banal, là.
Ouais.
Non, il faut pas banaliser ça. C'est 500 personnes qui ont décidé de se lever, d'acheter ton billet parce qu'ils veulent t'entendre. C'est jamais banal, ça.
Ouais. Ah mais, non, moi, je suis extrêmement reconnaissant.
Mais oui, il faut que tu le sois. Il y a deux façons de voir la chose. Ou tu es reconnaissant de ça, ou tu regardes en haut en disant, ben, Elise Dion, il a fait 300 dates, tu sais, ou 400 dates, lui, je sais où. C'est pas comme ça.
Ça t'arrive-tu d'un fois de... Ça t'as-tu déjà arrivé, par exemple, de faire, ah, j'aimerais ça... Un petit peu plus ou...
Ben, j'ai déjà dit ça, mais un petit peu plus.
Ouais.
Un petit peu plus. Mais moi, la différence, c'est que l'humour, ça a été un aboutissement. Ça n'a jamais été un but dans ma vie.
Mm-hmm.
Donc, tout ce qui m'arrive là-dedans, je considère ça comme un cadeau du ciel.
Ouais.
Là, pour une raison X ou Y, je l'ai faite 200 fois. Puis j'ai tiré la plug. Puis ça remplissait encore. Les 200 fois, ça a toujours rempli les salles. Tout le temps.
Puis pourquoi avoir tiré à plein?
Ben, parce que je me disais, ce qui est intéressant aussi, c'est la création, quand tu crées les choses. Parce que quand tu les fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais, arrive un moment où tu dis, OK, je tire la plug parce que le chemin pour arriver au spectacle, je l'aime aussi.
Ouais.
Donc, je voulais faire McTogoek, donc j'ai dit à. Ils disent, hey, tu peux encore remplir. Je pense un an, j'ai dit, non, on tire. Tire. Je vais faire d'autres choses.
Tu savais que tu l'aurais fait à contre-cœur?
Oui, mais pas à contre-cœur, mais je savais que j'avais besoin d'explorer d'autres choses. Donc, parce que c'est ça la récompense.
Ouais.
Toutes les humoristes savent que la première fois que tu t'inventes une blague, tu le fais, puis tu vois que cette blague marche.
Ouais.
C'est ça ta récompense.
Ouais.
Le reste, tu prends l'énergie des gens à qui tu fais du bien, mais il reste que tu n'es plus surpris autant que ça.
Ouais.
Mais quand tu fais une improvisation avec tes amis, là, tu sors quelque chose, tu dis, hey, celle-là est bonne. Ah, ouais. Ça, là, que tu l'écris. Moi, j'écris sur papier. Ça, ah, okay. Encore. Je suis ton oncle, hein, oublie pas ça. Mais c'est ça, là, c'est la création, c'est créer la chose. Moi, j'aime beaucoup ça.
Mm-hmm.
Créer la chose. Puis je pense que c'est. Si je devais arrêter de faire de l'humour, ce que j'aimerais, c'est m'asseoir avec des jeunes pour leur dire. Je pense qu'en fonction de ton profil, voilà, je pense que tu devrais dire. Maintenant, pars de là et arrive à là. Maintenant, le chemin que tu vas emprunter pour arriver à ça, ça dépend de toi. Trouve des gens. Parce que moi, c'est surtout ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Et je dis, si toi, là, Guy, ton trip, c'est le travail manuel, qu'est-ce que je, comment moi, avec mon expérience, avec mon âge, mon ancienneté, je pourrais être utile à ton projet? Qu'est-ce que tu pourrais bâtir comme projet? Est-ce que tu pourrais partir en disant, nous remercions l'hiver pour notre créativité? Puis là, tu pars de là, tu dis, c'est ça que je veux dire aux gens. Et je veux dire, par exemple, aux Français, nous ne sommes pas Français parce que nous, nous sommes devenus des gens totalement différents de vous. Pourquoi? C'est à cause de l'hiver. Et tu pars de là. Et tu pars de là et tu viens dans la maison. Puis tu sais qu'un Français veut pas. Dès que même le robinet qui coule, ils vont appeler le spécialiste de la robinetterie, les machins. C'est puis le Québécois. Plombier, c'est, ouais. Il s'en va, il s'équipe de tellement d'outils. Quand tu vois les gens, tu dis, ouais, c'est-tu ton métier? Je vois des fois des amis, là, je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ben oui, mais là, il faut que je répare mes affaires. Tu je répare mes affaires. Puis ils sont tous outillés comme tous des ouvriers professionnels. Ouais. Mais moi, je pense que plus tard dans ma vie, c'est ça que j'aimerais faire peut-être. C'est guider des jeunes qui commencent à trouver un chemin, c'est pour raconter une histoire. En fonction de mon expérience.
Des humoristes, tu parles?
Absolument.
OK. Fait que des humoristes de la relève.
Ah, des humoristes de la relève. C'est m'asseoir avec toi puis te dire quelles sont tes passions dans la vie. Puis d'écouter, t'entendre, de t'interviewer puis te dire qu'est-ce que tu veux faire.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux raconter aux gens comme histoire.
Ouais.
Comme histoire, là, qu'est-ce que tu veux raconter aux gens qui est très proche de toi et qui n'aura pas le choix de toucher les gens puis d'essayer de bâtir, de dire est-ce que si tu partais de ça, là? Et tu t'en vas vers là. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui se font? Puis on fait un brainstorming, on s'assoit. Pas pour écrire les blagues. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, voilà un fil que tu devrais suivre pour raconter ton histoire. C'est, en fonction de moi, mon expérience, c'est voilà comment je vois ton histoire, comment tu la racontes. Maintenant, tu peux décider de parler de plomberie là-dedans. Tu peux décider de comparer les couilles humaines à de la plomberie. Ça, c'est ça. Tu as le droit de dire, ben, le système des couilles, système reproducteur, je l'ai souvent dit, là, mais c'est de la plomberie, ça. C'est de la plomberie.
La
classique.
Tuyauterie.
Hein? C'est de la tuyauterie. Avec des gasquettes, puis des trop-pleins. C'est la nature, c'est pas forcé pour nous fabriquer des couilles, puis c'est des tuyaux. Puis les Chinois ont compris ça quand ils ont inventé la vasectomie. Là, ils savaient que ça prend juste un mini tuyau, tu le sors, tu coupes, c'est fini.
Ah ouais, c'est les Chinois qui ont inventé.
Ah, ben, oui, la technique chinoise, celle qu'on utilise le plus populaire ici, c'est la méthode chinoise.
OK.
Parce qu'eux autres, ils voulaient un enfant par coup, puis ils se sont dit, ben, le canal famille, c'est facile de la retrouver.
Le canal famille.
Pas, même pas besoin d'ouvrir une grosse ouverture. Mais si tu veux parler de cul, ben, tu peux faire ça. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est ça. Mettons que moi, si je travaille avec toi.
Ouais.
Dans un projet où tu veux parler de travail manuel, comment ça touche, ben moi, je vais te dire, tu sais, la nature aussi, elle savait qu'on se reviendrait manuel. Parle des couilles. Vas-y dans les couilles.
Mais c'est-tu quoi que tu aimerais faire, mettons, comme une école?
Non, pas une école. C'est juste...
Oncle Boucard?
Non, pas une école. L'objectif est nullement pécunier, ni école, ni faire de l'argent. C'est juste
Tu voudrais juste aider, être
altruiste. Je suis venu chez toi, puis je parle avec toi sur des sujets. Et c'est de rencontrer, on se rencontre, puis on prend une bière, puis on jase autour de ton projet, puis j'essaie de voir comment je peux être utile, comment je peux t'orienter certains trucs auxquels tu ne penserais jamais.
Ouais.
Parce que ça, c'est l'expérience qu'il donne aussi.
Ouais. Ouais, ouais.
Je peux t'orienter dans des trucs auxquels tu ne penserais jamais. Et donc, ça fait... je t'amenais dans un chemin de garnotte. Je te sors de l'autoroute, c'est ça. Je te sors de l'autoroute, je t'amène dans un chemin de garnotte. Puis là, à un moment donné, tu vas dire, « Hey, je ne pouvais pas imaginer ça. Je n'écrirai pas les blagues, mais je vais t'orienter sur un chemin que tu vas apprécier. »
C'est
Je pense que j'ai cette sagesse-là maintenant.
Ouais.
Puis ce n'est pas juste le temps, c'est que j'ai assez lu dans ma vie. Je pense avoir fait partie des gens qui lisent le plus...
Ouais.
Je suis quelqu'un qui lit énormément sur tous les sujets possibles, donc j'ai quand même ce regard. Ouais. Je peux retourner en arrière et dire du haut de mes 54 ans, ben, je pourrais être un genre de conseiller sage pour jeunes humoristes.
Ouais, t'as gagné justement plein de prix. T'as reçu plein de prix. On peut enlever une couple, le chevalier de l'Ordre national du Québec. T'as le prix Pierre Dansereau aussi, celle de Charles Binding. Puis plein d'autres prix. Lequel parmi tous ceux, même Révélation du Grand Rire 2005, là, Parmi tous ces prix-là, c'est lequel que tu es plus fier là-dedans?
Ben, je pense qu'il y a toujours quelque chose de biaisé dans chaque prix, mais moi, je pense que le plus grand prix que j'ai reçu dans ma vie, là, c'est le prix d'être reconnu comme Québécois. C'est...
Ah ouais?
Non, parce que moi, les gens, quand ils parlent de moi, ils disent « Boukhar, il est plus Québécois que les Québécois. »
Ouais. C'est...
Mais en même temps,
ça, tu dois être fier.
Tu dis, c'est quoi ça, être plus Québécois que les Québécois? Parce ouais. que je comprends pas comment on peut être plus Québécois qu'un Québécois, sinon... Tu risques de sortir du ring pas mal. Là. C'est une expression que je ne réussis pas à comprendre, mais ouais. c'est le prix de l'acceptation, pas totale, mais je le sens que les gens me portent dans leur... si, je le sens. Partout où je vais, en Abitibi, à Côte-Nord, jusqu'à Fermont, je sais, je le sens. Je sens l'attachement, que la tendresse des gens pour moi. C'est ça le prix qui m'intéresse. Tu sais. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est un prix que celui-là, je trouve que je le mérite parce que j'ai travaillé fort pour ça.
Ouais.
J'ai travaillé, j'ai étudié l'histoire du Québec. Je voulais connaître l'histoire. J'ai écouté sa musique. J'ai écouté les gens. Je me suis approché. Je l'ai voyagé, le Québec, d'est en ouest, du nord au sud, même bien avant de faire de l'humour. Donc, je voulais vraiment m'approprier le territoire et les gens qui l'habitent. Et donc, quand je reçois ce prix-là où les gens me disent « Hey, toi, Boukhar, tu devrais te présenter en politique. » Ça, je trouve ça cool.
Ouais.
Ben, sinon, tout le reste, c'est
tu as-tu déjà pensé à faire le saut en politique?
Je me fais tout le temps demander ça.
Ouais.
Ouais. À toutes les parties m'ont demandé de venir avec eux. Toutes les parties, non. Il y en a qui savent que ça ne marchera pas, mais ils ont essayé souvent. Mais ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'on peut changer le milieu dans lequel on vit sans faire de la politique.
Mm-hmm.
C'est vrai que politiquement, c'est quelque chose d'efficace aussi, mais c'est grosso modo, moi, c'est ce prix-là. Pour moi, c'est celui-là. C'est sûr que quand on te donne l'Ordre national du Québec, c'est quelque chose de très lourd à porter.
C'est, mm-hmm.
Parce que c'est comme si on disait, ben là, on est fier de toi, mais si tu es de tes arrières, le jour où on te prend, tu es dans un bar de danseuse, t'es cuit, là. T'sais.
OK. Ça vient avec
mais ça vient avec des responsabilités. Tu sais, je prends le bar de danseuse, j'y vais ouais. jamais, mais si je trouve que c'est très lourd à porter parce que ça vient avec un comportement. Je suis jamais allé dans un bar.
Ah, je sais, je fais que t'as niaisé.
Personne n'est jamais allé dans un bar de danseuse. Mais c'est juste c'est une grande responsabilité
ouais.
de porter ça. Et j'espère être à la hauteur de ça aussi. En tout cas,
quand tu parles de responsabilité, tu veux dire que c'est ça, faut pas que tu fasses de faux pas? Ou...
Ben, je pense que oui aussi.
Okay.
Tu sais, quand les gens ont dit on est fiers de toi, là.
Ouais.
Puis.
Tu deviens un symbole. Un
tu vaux pas la marde, n'est jamais loin.
Ouais. Hein?
Ouais. Hein? Tu sais, on dit toi, là, t'es extraordinaire, on est fiers de toi. Puis le lendemain, on dit tu vaux pas de la marde.
Ouais.
Ou tu te prends pas pour de la marde. C'est, okay. c'est pas loin, là. C'est...
Ouais.
C'est ça, ça fait que ça vient aussi avec une responsabilité.
OK.
Mais j'espère être à la hauteur de cette responsabilité-là, c'est tout.
Yes.
Je ne suis pas parfait. Pas en tout.
Est-ce que tu... Ma tante... parce que, tu sais, vu que tu es biologiste puis humoriste, est-ce que tu penses que c'est plus facile pour toi de faire passer un message quand tu es scientifique? Quand t'es humoriste ou...
Ben, je sais pas, mais tu sais, je pense que c'est le mélange des deux qui ouais. fait la chose.
Parce que, tu sais, on dirait que des fois, quand il y a une nouvelle qui sort, quand il y a des scientifiques qui font un appel,
ouais.
on dirait qu'on les prend pas au sérieux, on les entend, puis ça sort de... ça rend d'un oreille, ça sort de...
Ou les gens ne comprennent pas.
Ouais, ou okay,
que le langage
n'est
pas...
Exact.
L'humour te donne cette capacité de réorganiser
ouais. le vulgariser.
Oui, c'est ça.
Ouais.
De vulgariser, c'est ouais. de rajouter un crisse à chaque début de phrase. De rendre vraiment vulgaire pour que ça passe.
Ouais, ouais.
Mais oui, c'est l'humour te permet de réemballer ce que les gens ont de la misère à saisir. Tu le prends. Moi, quand j'écris dans la presse, je fais beaucoup ça. Donc, c'est de réemballer pour que les gens, le fait de rire les amène à saisir le message.
Mm-hmm.
Tu sais. Mais je pense que le fait d'être biologiste me donne la crédibilité de faire ça aussi. Parce que quand
ouais.
je parle d'environnement, les gens disent bah, « Ah,
qu'est-ce que tu connais là? »
C'est juste un...
Ouais.
Mais il y en a qui le disent parce ouais. qu'ils ne savent pas non plus que j'ai étudié en biologie. Il y en a ouais. beaucoup là qui ne le savent pas.
Ouais.
Mais il reste que quand j'écris sur un sujet comme l'environnement, ben, je pense qu'il y a une espèce de, une petite crédibilité qui vient avec parce que les gens disent, ben, c'était sa vie pareil, c'est.
Mm-hmm.
S'il parle du Saint-Laurent, c'est parce qu'il a fait une thèse de doctorat dessus, pareil, c'est.
Ouais.
Il a écrit un livre là-dessus, il a fait une thèse là-dessus, donc, il y a ça, je pense,
ouais.
que je sens, que je sens, c'est, la biologie donne, l'humour permet de mieux passer la biologie.
Ouais.
Mais la biologie donne une crédibilité sur certains sujets à l'humoriste que je suis.
Mm-hmm.
C'est vraiment ça. Et moi, c'est la biologie qui m'a amené dans l'humour. Parce que je faisais des blagues de biologie qui m'ont amené dans l'humour. Je fais du spectacle. Et après deux spectacles, j'ai décidé que maintenant, je dois amener la biologie dans l'humour. Puis maintenant, c'est ça que j'ai fait.
Ouais. Puis tu as senti cet appel-là de ramener la biologie dans ton... Ouais.
Oui. Moi, l'enseignement, j'aime ça.
Ouais.
J'adore enseigner. Prendre des gens puis dire, regarde, c'est complexe ça.
On va apprendre. C'est fou, ouais, là. Ouais.
Je vais vous parler des plantes, tu sais. Puis je vais vous parler des orchidées ou je vais vous parler du hera ou de... C'est, et de faire une émission avec, de créer autour de ça pour que les gens disent, ah, ça là... Ça fait partie de mes... Moi, c'est mes plus gros trips dans la vie. Donc, je m'arrange pour mélanger les deux sur scène.
Mm-hmm.
C'est pour ça que je te dis que les deux premiers spectacles que j'ai faits, je ne pourrais plus les refaire. C'est... Parce que je suis ailleurs maintenant.
Oui, c'est ça.
Je suis vraiment ailleurs. De temps en temps, je leur fais un clin d'œil, mais ouais. Je ne reste pas longtemps là-dessus. Je reviens toujours... Comme là, je suis en train d'écrire un spectacle qui s'appelle Nono Sapiens. C'est...
OK, tu es déjà en train d'écrire ton...
Oui,
Nono Sapiens. C'est quoi, ça va être le cinquième?
Oui.
OK.
Mais c'est vraiment l'histoire de l'humain.
Okay.
Ça s'approche plus de la biologie. Cette okay. fois-ci, c'est drôle, mais il reste que c'est drôle, conférence au drôle.
OK.
Puis c'est vraiment pour parler de la place de l'humain dans l'humanité, dans la création, cette espèce bizarre que nous mm-hmm. sommes et qui est une espèce... Tu sais, on ne peut pas comprendre l'humain. C'est une méchante bibitte, l'espèce humaine. Puis c'est ça, je veux écrire autour de l'humain puis dire aux gens, ben voilà une espèce qui dont l'intelligence va mener à sa perte. Parce que des fois, on vante l'intelligence.
Ouais.
Mais trop intelligent, des fois, ça peut mener à la perte. Mm-hmm. C'est ça l'humain qui est arrivé. C'est à force d'avoir un gros cerveau, ben il est en train de détruire tout.
Ouais.
Et probablement que...
C'est sa force qui en fait son défaut. Quasiment.
Voilà. Je pense que c'est George Carlin, l'humoriste.
Il est juste en haut, là.
C'est lui ici, hein?
En haut.
C'est lui ici?
Yeah.
Carlin avait dit une parole, c'est peut-être le seul que je peux citer là-dedans. Hein. Lui avait dit, puis quand tu entends les gens, les environnementalistes, ils disent, il faut sauver la Terre, la Terre.
Ouais.
Puis il dit...
La Terre, elle va se régénérer.
Oui, oui.
C'est nous autres qu'il faut sauver.
Non, mais Chris, t'as tellement raison.
Ouais.
T'as tellement raison.
Faut sauver la planète. Non.
La planète
planète va survivre.
Oui, elle a existé.
Nous autres, non.
Oui.
Ouais.
La vie est apparue 3,5 milliards d'années avant que l'humain se pointe ici. Mm-hmm. Puis elle existait, la vie.
Ouais.
La Terre était là depuis combien de temps? Puis nous, du haut de notre prétention, on arrive en disant qu'il faut la sauver. Ben non.
Ouais.
Elle va se régénérer. Les dinosaures sont partis. Ils occupaient toute la place avant.
Ouais.
Le pétrole qu'on exploite aussi, c'était des forêts du carbonifère qui sont fossilisées. C'est toutes les extinctions de masse, il y en a toujours eu.
Ouais.
Il y en a eu 5. Puis de penser qu'on ne pourrait pas être l'autre, là. C'est vraiment ne pas se prendre pour de la marde. C'est vraiment ne pas se prendre pour de la marde, c'est ça.
Là, tu sais, je vois que le temps avance. Puis je voulais te poser, je voulais te parler de ça au moins avant de terminer. La fameuse vidéo de la palourde royale.
Oh non, Dieu!
Tu t'en fais-tu encore parler aujourd'hui?
Ah non, mais Chris, écoute, excuse-moi. Excusez-moi pour le sacre, d'accord? Ouais. Mais... Ah non, mais ça a gâché ma vie, mon gars.
Ah ouais, c'est ça.
Oh!
Hein. Tu t'en fais encore parler.
Ah non, c'était carré, hein, mais c'est comme collé. Je sais pas comment on va faire. Écoute, on a fait 8 ans d'émissions des Kiwis et des Hommes, proche de 1000 émissions de 1h30.
Ouais.
Et tout ce qui reste dans l'imaginaire des gens, c'est cette hystérie autour d'une bisoune marine qui a duré 2 minutes, OK?
Ouais.
2 minutes, et là, c'est juste ça qui est resté.
Mm-hmm.
T'sais?
Ouais.
Puis après ça, on dit aux jeunes, ben quand tu fais de l'humour, parle pas de cul, c'est pas bien. Ben non.
Non.
C'est ça qui marche.
Ça te tue. Ouais, ça te tue plus. Ça te tue autant aidé que tu trouves ça te nuit ou.
Ben je sais pas là. Ouais, je sais pas moi. Là. Des fois les gens m'appellent la palourde, tu sais.
Ouais.
C'est, je m'appelle plus Boucal. C'est ouais. Fois de taxi. L'autre fois l'haïtien, hé, la palourde. J'ai dit, comment ça tu m'appelles la palourde? Je ne suis pas la palourde, je suis la lourde. C'est Francis la palourde. Mais c'est vraiment horrible, la palourde royale. Là. C'est, on est marqué au fer ouais. Rouge avec ça.
Penses-tu plus toi que Francis ben oui, ou Francis sûr, aussi?
Moi, je vois les remakes, les gens en font des remakes. Les Français, les si, c'est toujours là. C'est toujours les allusions, genre Francis qui dit oh, regarde! Non, mais nom de Dieu, c'est une grosse graine! Et moi qui réponds, mais non, parle pour toi. Moi, je vois une taille régulière, tu vois, mais si t'as besoin d'un psychologue, on pourrait t'aider.
OK, ils font des doublages.
Ah, non? C'est horrible.
Ah, ouais.
Écoute, la palourde, là, j'envoie à M. Tri. M. Tri nous a foutu dans la marbre.
Ah, ouais.
Vraiment, là, avec ça, là, on est pogné avec ça pour l'éternité, c'est. Même sur si tu tapes Québec drôle là,
ouais.
Sur Google là, et il apparaît tout de suite la palourde royale. C'est la comme palourde. Voilà la bisoune. Ouais, c'est ça, c'est. Mais que veux-tu, c'est
ouais.
Ça fait rire les ouais. Gens.
Mais ça t'a-tu aidé dans ta carrière, genre à te faire découvrir ou à vendre des tickets ou à.
Ah, je sais pas. C'est sûr que moi, j'ai abusé de ça un peu bah, aussi. Ouais. Hein. J'en ai parlé souvent de la palourde. J'ai taquiné Francis là-dedans. C'est...
Ouais.
Mais je sais pas vraiment.
Mais ça vous
a quand même, c'est une publicité quand même.
Mm-hmm.
Vous, ben, vous pas, c'est ça. Il y a 5 millions quasi presque de personnes qui ont vu la vidéo principale.
Ouais.
Ça fait beaucoup de monde, là.
Ouais.
Donc, c'est une publicité, mais en même temps, c'est... Mais même sur scène, maintenant, quand je dis le mot palourde, là, tu vois tout le monde. La palourde.
Cette fameuse palourde.
La palourde. La palourde. Ah, c'est horrible.
T'as-tu déjà pensé à aller te produire en France ou...
J'ai eu beaucoup de demandes pour faire ça.
Ouais?
Ah ouais. J'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de propositions pour aller faire carrière en France parce que c'est un peu quand même universel les ouais. Sujets que j'aborde. C'est quand tu parles de sciences de la reproduction...
Ouais, c'est
ou
ça.
Ou environnement, des sujets qui venant de l'Afrique de l'Ouest, je pense que c'est plus facile un peu pour moi là, de rentrer, tu sais, nous, mm-hmm. On est des colonies françaises, pareil. Là,
ouais.
On l'a été jusqu'en 1960, tu sais. Et donc, oui, j'ai eu des demandes, mais moi, j'ai pas eu d'ambition. J'ai pas d'ambition.
Ah ouais.
Je ne l'ai pas, l'ambition. Je ne l'ai pas. Ça a été un aboutissement, pas un but. Et ce que j'ai ici, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin de.
Ouais.
J'ai pas besoin d'aller en France et de faire. Un spectacle pendant 8 ans, puis
t'éloigner de ta famille.
De remplir, ouais. Tu sais. C'est comme on dit, il y a un proverbe arabe qui dit à un moment donné, là, entre être et avoir, il faut choisir.
Mm-hmm.
Parce que tu peux avoir, mais tu fais quoi avec tes enfants, là?
Ouais.
C'est ici. Moi, je me suis dit, si un jour j'essaie d'essayer en France un peu, ce sera quand mes enfants sont vraiment grands, puis là, je vais y aller juste pour le trip.
Mm-hmm.
Parce que je le ferai en disant j'ai pas besoin de ça pour vivre, c'est je le fais, si ça marche tant mieux. Même en Afrique d'où je viens, je fais pas de spectacle.
Ouais.
Je
t'en vas visiter.
Je vais là-bas et je tombe dans l'anonymat total quand j'arrive au Sénégal.
Ouais.
Ça me fait du bien. Tu sais, je m'en vais chez mes parents, je m'installe là, je m'en vais dans les champs d'arachide.
Ouais.
C'est ça.
Tes parents, ils sont-tu fiers de toi que tu es devenu une vedette au Québec?
Mes parents, ils ne savent pas vraiment. T'sais, ils savent que je. De plus en plus, avec les gens, parce que tu sais, j'ai écrit quelques livres et les gens, des fois, lisent mes bouquins puis ça les touche, tu sais.
Ouais.
Puis il y en a certains dont j'ai écrit qui parlent de l'histoire d'un baobab, un livre dans les champs de mon père.
Mm-hmm.
Puis il y a des gens qui l'ont lu le livre, ça les touche, puis quand ils vont en Afrique, ils s'en vont là-bas.
Ouais.
Donc, de temps en temps, je suis ici puis quelqu'un m'envoie des photos de ma famille. Ils sont allés chez mes parents,
Québécois, oui. OK.
Ils prennent des photos, ils mangent avec mes parents.
Puis là, ils disent, tu es boucard.
Puis ils s'en vont voir le baobab, l'arbre, puis ils reviennent. Puis mon père me dit des fois, mais qu'est-ce que tu fais là pour que les gens, les blancs, viennent me voir ici? Là? parce que j'ai cambriolé plein de banques, c'est ça.
C'est des huissiers.
C'est Interpol qui me cherche dans la savane. Mais sinon, non, c'est... c'est vraiment incognito.
Ouais.
Moi, je suis... Puis c'est bien aussi.
Ouais.
C'est bien, parce que la télé, c'est facile de rentrer là-dedans, mais de sortir de ça, c'est impossible.
Ouais. Hein?
Même si tu veux sortir, tu sortiras pas longtemps.
Ah non, on va tout le temps t'appeler la palourde.
Ah non, c'est exactement. Tu vas aller dans la savane africaine, t'as un pygmée qui te dit « Hé, la palourde! » C'est toi avec Internet maintenant, là. Il n'y a plus de frontières, là.
Ouais. Hein?
Tout ce que tu fais, les gens le voient partout aussi. Alors, c'est ça, là. Moi, je... c'est bien quand t'arrives, puis personne te connaît, là.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais... Être connu, là, puis partout où tu vas, les gens te parlent. C'est pas humain, là.
Ouais.
C'est très... C'est gros pour un individu.
Mm-hmm.
C'est gros parce que c'est tellement gros qu'à un moment donné, ça prend quelque chose pour te ramener à terre, pour te dire, « Hey, ne te prends pas pour la marde. » Je reviens là-dessus, si je l'aime cette expression.
Ouais.
Parce que tu finis par te prendre pour de la marde, tu sais, ou un fraîchier.
Ouais.
Finissent par devenir fraîchier parce que apparemment la marde, plus c'est frais, mieux c'est là au Québec. Mais tu vois, donc, ça prend des gens, c'est juste pour dire, tu retournes dans l'anonymat pour savoir ce que c'est.
Ouais. Ben, puis avoir une pause. Hein.
Oui, c'est comme ça.
Ouais.
Et quand tu as des enfants, ben, les enfants, ils te ramènent.
Mm-hmm. Ouais.
Quand tu reviens, tu es fatigué, tu arrives de Rouyn-Noranda, puis tu essaies de leur raconter ton spectacle, ça les intéresse pas. Ils vont dire, fais-nous ta sauce spaghetti.
Ouais, c'est
t'es
ça.
La sauce, tu mets des boulettes. Ça, ouais. Là, on l'aime beaucoup. Si tu le fais, tu vas avoir des câlins.
Montre-moi quand même défendre d'un poulet.
Ouais, voilà, comment assassiner un poulet.
Ouais.
Voilà, mais c'est ça, ça fait que... Moi, j'ai toujours gardé ces endroits-là pour où tu reviens. Boucar Point.
Okay.
Tu ne peux plus l'être au Québec, c'est impossible. Partout où tu vas, pour le meilleur et pour le pire aussi. Parce que les gens vont te sourire, ils vont te dire « t'es extraordinaire ». Tu sais,
ouais.
Puis, en fait, en réalité, ce qu'on fait n'est pas extraordinaire. Tu sais. Comparé à un enseignant ou un médecin de famille qui sauve des vies, un enseignant qui forme les kids, tu sais, l'humour, c'est pas une nécessité absolue. Tu sais, moi, je le dis, ça fait du bien aux gens, mais c'est pas, on t'entendra jamais les gens dire « il manque d'humoristes au Québec, tu sais.
Ouais.
Il manque d'enseignants, on le dit.
Ouais.
Tout le monde capote. Mais il manque d'humoristes, là. J'ai jamais entendu ça, là. Il faudrait ouvrir l'immigration parce que nous avons besoin d'humoristes. Là.
Il n'y a pas assez d'humoristes au Québec.
Ouais. Il n'y a pas assez d'humoristes pour simplifier les formules pour faire entrer des humoristes français.
Ouais.
Tu sais?
Bah,
hein?
Pas sûr. Pas sûr, ça me tente.
Quand tu sais qu'ils vont repartir avec le matériel québécois.
Ouais,
là.
Ouais, c'est ça. Hey, Boucan, c'était vraiment le fun.
Hey, Dieu, ça fait plaisir.
Hey, merci beaucoup.
Un gros plaisir, mon ami.
C'est vraiment bonne apprécié. Chance. Puis, c'est le temps des plugs. Tu veux-tu plugger? T'as-tu des spectacles qui s'en viennent?
J'ai pas grand-chose à plugger. Il me reste des dates de mon spectacle, Togoek.
Okay.
Et puis, vous pouvez venir le voir parce que c'est un spectacle qui porte sur le fleuve Saint-Laurent. C'est un peu l'histoire du Québec à travers une croisière sur le fleuve Saint-Laurent. Mais de plus en plus, j'ai beaucoup de rockers qui viennent voir mon spectacle.
Ah ouais, des rockers.
Le public à Mike, oui.
Non, ouais. C'est bon,
j'ai des gens avec le t-shirt de Mike qui viennent voir mon spectacle parce qu'ils ont entendu mon podcast chez Mike.
Ben ouais, c'est ça. Puis quand tu vas là, le monde aussi, t'aime bien, non?
Parce que moi, si j'ai dit, il faut que j'aille voir les jeunes, parce que sinon, les gens, ils me regardent en disant, Boucar, il se prend pas pour de la marde.
Ah, ouais.
Puis c'est pas ça, Boucar.
Mais juste ton passage, là, quand tu parlais de. Tu t'es chicané un peu avec Dave Morgan
pour le pommier.
Pour le pommier.
C'est un hostile pommier.
Il l'a coupé. Coupé, son
pommier.
Oui,
il l'a coupé.
Il l'a coupé.
Là, j'ai à Dave, bon, ben, on n'aura plus rien à se dire. Il a coupé la branche du pommier. Ça.
Ouais.
Ouais.
Ben, c'était super le fun. Merci beaucoup d'être venu. Puis,
merci
tout le monde d'avoir écouté. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allen.
Yeah. Boom, 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 boom.